Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au balado des attachés de presse. Le conspirationnisme, c'est un milieu qui transcende l'espace-temps. On peut penser aux théories du complot vis-à-vis le 11 septembre, la présence humaine sur la Lune, ou même la COVID-19. Aujourd'hui, on discute de conspirationnisme, de discours révolutionnaires et de violence populaire lors de la Révolution française. On accueille pour l'occasion Philippe Munch, professeur au Cégep de Sherbrooke et chargé de cours à l'Université de Sherbrooke au département d'histoire. Tout ça sur les ondes de CFAQ 88.3. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Renaud. Bonjour Mégane. Allô. Bonjour Philippe.
Bonjour l'équipe de la radio.
on peut se tutoyer dès maintenant.
Oui, tout à fait. Surtout qu'on se le cachera pas, on se connaît quand même très bien.
Oui, bien, pour chers auditeurs d'auditrices qui nous écoutent, vous devez trouver ça particulier. Pourquoi un professeur de cégep ou... ici, sur les ondes des attachés de presse, bien effectivement, Philippe m'a enseigné au Cégep de Sherbrooke dans le cadre du stage Vietnam. Je les salue d'ailleurs, qui vont partir très bientôt. On aura la chance peut-être d'en discuter en toute conclusion. Mais bref, ça fait longtemps que je voulais qu'on parlait de cet épisode-là, moi puis Renaud. Parler de conspirationnisme pendant la Révolution française, pourquoi? Ben, je connaissais un expert en la matière qui est autour de la table aujourd'hui. Mais c'est aussi un sujet qui sort du cadre, encore une fois, de nos émissions habituelles, puis on aime ça sortir du cadre. Donc, pour l'occasion, à la sortie de ton livre, Philippe, Le pouvoir de l'ombre, complot et révolution, 1789-1801, en fait, qui vient tout juste de paraître, tu synthétises ta thèse doctorale à ce sujet-là. Tout d'abord, en tout début d'introduction, quel est le début de ta passion envers le thème du conspirationnisme puis de la Révolution française, mais aussi pourquoi l'émergence de ce livre-là, à un contexte qui peut sembler anodin ou qui peut sortir du cadre, mais qui est d'actualité en soi. Donc, tout début de choses.
Ce qui est particulier avec le conspirationnisme, c'est que, en fait, il y avait déjà une revue qui m'avait demandé « Est-ce que vous avez pensé à ce livre-là dans le contexte de la pandémie? » Non, ça fait à peu près 20 ans que je travaille là-dessus. C'était déjà d'actualité en 2001 avec le 11 septembre. C'était déjà d'actualité avec la pandémie. Puis plus on remonte, plus on se rend compte que finalement, le conspirationnisme comme objet d'étude, mais même aussi comme phénomène, c'est quelque chose de beaucoup plus vieux. Puis en fait, c'est quand même une belle question pour commencer cette conversation-là ensemble. C'est que j'ai découvert le conspirationnisme à travers un livre. En fait, il y avait un professeur à l'université, donc j'étais en deuxième, troisième année. Je commençais à réfléchir à ma maîtrise, puis il me dit, si tu veux vraiment travailler sur la Révolution, tu devrais lire ce livre-là. Puis c'était le livre de François Furet, Penser la Révolution française. Un livre de 1978, vraiment une espèce de bombe théorique dans les écoles historiographiques qui critiquait beaucoup l'approche marxiste. Puis j'ai lu ce livre-là, honnêtement, c'est hyper stimulant. Je revoyais mon livre, honnêtement, j'ai dû le lire, je sais pas combien de fois, ce livre-là. Donc, c'est écrit à l'angle, c'est écrit à mine, j'ai pris des notes. Donc, ça fait 20 ans que je relis ce livre-là, c'est toujours stimulant. Puis dans ce livre-là, il y a vraiment 10 pages qui m'ont marqué pour toute ma vie, qui vont finalement lancer un peu la recherche pour 10 années. C'est vraiment, des fois, dans un moment, finalement, de vos études, vous avez peut-être rencontré à un moment donné un livre, un auteur qui va vous marquer. Puis là-dedans, il y avait 10 pages sur l'idée de complot, ce qu'on appelle le conspirationnisme. Et François Furet utilise le terme d'idée de complot, qui montre que c'était au cœur de l'idéologie révolutionnaire. Mais il l'a peu développé, puis apparaît un personnage clé qui est Robespierre. Donc, j'imagine qu'on aura peut-être la chance d'en parler. Mais sur 10 pages, il parle de l'idée de complot. Il montre comment Robespierre, comme politicien, a utilisé l'idée de complot dans ses jeux de politique. Et donc, ça m'a donné l'idée de faire une maîtrise justement sur Robespierre et le conspirationnisme. 2015. Donc, c'était le début de mes travaux là-dessus. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était quand même limité de travailler seulement sur Robespierre, même si c'est un personnage clé super important de la Révolution. Donc, je me suis rendu compte que finalement, c'était un peu trop restrictif. Donc, je me suis posé la question, est-ce que le conspirationniste était aussi chez d'autres courants révolutionnaires, dans la pensée contre-révolutionnaire? Est-ce que c'était seulement en 1789, 1794? Est-ce qu'on devait étendre cette recherche-là? Puis finalement, c'est ça que j'ai fait au doctorat.
T'en as glissé un mot, puis je voulais te poser la question de manière vraiment concrète. Quelles sont les pertinences scientifiques et sociales de comprendre le thème du conspirationnisme à une époque aussi loin, entre guillemets, que la Révolution française? On ne se le cachera pas, tu es étudiant en histoire, puis on peut peut-être être d'accord là-dessus. Souvent, on dit, à quoi sert l'histoire? J'entends souvent ça dans le discours sociétal, puis je trouve ça je comprends que comprendre l'histoire nous aide pour le présent. J'imagine que tu penses la même chose, puis j'imagine que ta perception derrière la pertinence scientifique ou sociale de ce thème-là est beaucoup plus grande aussi.
Oui, tout à fait. En fait, là, il y a plusieurs questions, en fait, dans ta question. Là, il y a comme ça, on pourrait en parler pendant, évidemment, des heures sur la pertinence, évidemment, de l'histoire. De toute façon, les étudiants au cégep se posent toujours la question au début. J'espère les convaincre à la fin. Mais en fait, ce que j'ai découvert, c'est que tu me poses la question de c'est quoi l'utilité de travailler sur quelque chose de si lointain. Mais est-ce que la Révolution, honnêtement, est-ce que c'est si lointain? C'est quand même la matrice de la France contemporaine. C'est comme le berceau aussi c'est un laboratoire de démocratie. Et encore aujourd'hui, la Révolution française, chez les historiens, c'est quand même un sujet qui est chaud, c'est passionné. C'est un objet d'étude encore très idéologique. Puis on a l'impression que les historiens ils vivent comme si on était encore durant la Révolution française. Puis on se rend compte que finalement, c'est un laboratoire de la démocratie naissante avec des enjeux qui sont encore aujourd'hui. Puis on se rend compte finalement que le conspirationnisme, malheureusement, ben pour le meilleur ou pour le pire, c'est encore un sujet très, très d'actualité. Donc j'ai découvert à travers la Révolution française, finalement, des thèmes, des problématiques sont très actuels. Puis de les comprendre, ça nous permet... Donc, je vais commencer par la fin sur l'utilité de l'histoire. C'est que souvent, qu'on aborde la question du conspirationnisme, aujourd'hui, on a des auteurs qui ont l'impression d'avoir découvert que finalement, ils ont l'impression que c'est un phénomène nouveau, que finalement, qu'on a peu travaillé là-dessus. Mais finalement, l'historien est là pour rappeler que finalement, c'est un phénomène très ancien qui remonte bien avant la Révolution française. Dans mes recherches, je me suis posé la question tout simple au début, c'est quoi les fonctions de ce discours-là? C'est quoi les caractéristiques? Puis ça vient d'où? Donc là, je me suis posé la question, est-ce que ça vient de la Révolution française? Parce que finalement, c'est lié à la culture démocratique. Je me suis rendu compte que finalement, ce discours-là était déjà là au Moyen-Âge. Par exemple, il y avait déjà les théories de complot sur les Juifs, sur certaines minorités. Et donc, plus on creuse, plus on se rend compte que finalement, le conspirationniste est déjà là avant. Ce qui m'a amené finalement à développer une approche anthropologique sur des archétypes. Donc, derrière le conspirationniste, il y a des archétypes puissants comme l'altérité, comme la dualité, comme l'unité. Donc finalement, j'ai découvert qu'il y a quelque chose de structurel qui apparaît dans des moments évidemment névralgiques comme la Révolution française durant la pandémie, le 11 septembre, des moments de crise, mais on se rend compte finalement il y a quand même un phénomène qui est structurel et qui finalement ne peut pas être daté. Et c'est ça que finalement que j'ai découvert. Donc évidemment, dans une thèse, j'ai pas pu travailler sur le conspirationnisme depuis la nuit des temps. Donc je me suis concentré sur la Révolution française parce que c'est un moment de crise important, mais c'est aussi lié à une culture qui apparaît, une culture de la transparence. Puis ce qu'on voit finalement, c'est que le conspirationnisme aussi est consubstantiel ou en tout cas, il est lié vraiment intrinsèquement aussi à la démocratie.
Alors non, Renaud... a eu la curiosité lorsque tu as parlé des archétypes. Peux-tu aller plus loin dans cette interprétation-là du complot dans la Révolution française?
Donc, en fait, je me suis posé vraiment la question. Évidemment, quand on travaille sur un sujet, n'importe quel sujet, on veut comprendre évidemment les fonctions, les différentes caractéristiques. Puis je me suis posé une question tout simple. Ben, d'où vient le conspirationnisme? De toute façon, je suis un historien, donc évidemment, je m'intéresse aux origines des choses. Donc, et c'est là que j'ai découvert que finalement, c'est un phénomène très ancien, comme je le disais, lié à des archétypes. Et c'est là que finalement, j'ai découvert une approche plus anthropologique avec Gilbert Durand sur les structures élémentaires de l'imaginaire. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'à travers le temps, le conspirationnisme a toujours des constantes, comme un genre de moule permanent qui est constitué autour de finalement trois archétypes puissants qui structurent notre imaginaire depuis très longtemps, qui est l'altérité, la dualité, puis l'unité. C'est-à-dire que À chaque fois qu'on est en présence d'un discours conspirationniste, ça suppose finalement une espèce d'altérité où on dépeint l'autre. Donc, c'est une altérité quand même négative et radicale. On dépeint l'autre comme un conspirateur. Et ça suppose finalement une espèce de monde bipolaire, d'une polarisation dans un monde dualiste complètement manichéen. Et ce que ça cache derrière ça, c'est un désir derrière chaque communauté politique, vraiment une émotion politique importante, c'est un désir d'unité. Donc, quand on est en présence du conspirationnisme, que ce soit en 2023, que ce soit durant la Révolution française, que ce soit durant le Moyen-Âge, on retrouve finalement toujours cette espèce de moule archétypal.
C'est comme s'il y a quelque chose dans le tissu social qui manque. Il y a comme une crise de confiance entre certains groupes de la société. C'est ça que je comprends dans le fond, puis ça mène à ce genre de mentalité-là.
Tout à fait. Puis là, ta question, en fait, ça renvoie finalement aux fonctions principales du conspirationnisme. Ça répond à un besoin social important. Puis d'ailleurs, ça me permet quand même de préciser, faire une remarque ici. Ce qui m'intéresse dans mes recherches, je suis pas en train de dire que c'est pas intéressant en soi, c'est pas de vérifier la réalité ou l'existence, la crédibilité des théories de complot, mais moi, c'est voir plutôt les fonctions. Pourquoi ces gens-là, les acteurs, les actrices de l'histoire, utilisent ce type de discours-là? Puis c'est quoi les fonctions? Ça répond à des besoins fondamentaux dans une communauté de donner du sens, d'expliquer. Donc, ils ont vraiment une fonction explicative, ontologique, absolument fondamentale derrière les théories du complot, de dire ce qui est, ce qui n'est pas, ce qui est pas, de donner un sens, d'expliquer. Donc, ça répond à un besoin social et c'est pas pour rien que finalement ça apparaît dans des périodes de crise, que ce soit la pandémie, que ce soit le 11 septembre, et évidemment la révolution, qui est évidemment une période de crise où on remet en question justement les valeurs, pour revenir à ta question. Là.
Moi, je sais pas comment introduire le sujet, mais ça me rappelle, on m'avait fait lire Les liaisons dangereuses quand j'étais au cégep, qui est un livre qui parle de la décadence de la famille royale à la fin des années 1700. Puis vraiment, on se rend compte que, tu sais, à la même époque, les gens, ils vivaient dans la misère noire totale, là, dans les campagnes françaises, dans les villes. Donc, il y avait vraiment un fossé incroyable entre les deux. Fait que, est-ce que vous diriez que c'est ce genre de truc-là qui amène l'espèce de colère puis de ressentiment, si on veut?
Bon, évidemment, les causes de la révolution sont quand même assez complexes, mais ce que tu dis, honnêtement, puis ce que tu nommes, il y avait d'emblée, au début de la Révolution, lors des États généraux, ce qui va amener finalement à la prise de la Bastille, il y a un désir de fonder une nouvelle société basée sur la liberté, sur l'égalité, puis un rejet de l'aristocratie. Et ce qui est majeur, puis ce qui est fondamental, c'est finalement l'émergence d'un thème qui s'appelle le complot aristocratique. Parce que finalement, ce qu'on voit, c'est que la part du complot, on a l'impression que, d'ailleurs, là, je fais une petite parenthèse méthodologique, on a l'impression que les émotions en politique, c'est le degré zéro de la pensée, alors que c'est des modalités de jugement. Il y a vraiment des valeurs qui sont derrière cette peur-là. Puis, la peur du complot, finalement, participe à la naissance de la nation française. Parce que la nation française se constitue autour de valeurs importantes comme la liberté, l'égalité, mais aussi sur des passions négatives. On s'invente, on se crée une nouvelle communauté imaginaire parce qu'on va rejeter. Puis qu'est-ce qu'on rejette? C'est l'aristocratie, parce que c'est l'incarnation des privilèges, de l'inégalité, du despotisme. Donc, le complot aristocratique devient un thème dominant dans le discours révolutionnaire, parce que finalement, ça permet non seulement d'expliquer, comme je viens de dire, mais ça permet d'inventer une nouvelle communauté politique qui est la nation française.
Maintenant, je voulais relancer sur ce point-là. Mais en fait, pour ceux et celles qui comprennent, je pourrais dire, le conspirationnisme de manière générale, comment, d'un œil d'historien qui a travaillé sur ce contexte-là pendant la Révolution française, on pourrait le définir, l'expliquer, puis aussi comment, pendant la Révolution, le thème du complot était non seulement omniprésent, il était central, puis comment on remarque les fonctions de ces représentations du complot à travers les discours? Parce que tu me diras si je me trompe, mais tu as étudié la figure de Robespierre, puis ça, c'est mon point tout de suite par la suite, mais il était omniprésent dans les discours, puis ce qui créait une sorte de... qui mettait de l'avant le complot pour des intentions révolutionnaires, là.
Encore une fois, c'est une question qui est dans cette question-là, ça ouvre de multiples portes, mais je vais commencer par Robespierre, puis finalement, ça va nous permettre de comprendre c'est quoi le conspirationnisme puis ses fonctions. Donc, Robespierre, bon, je sais pas si vos auditeurs et auditrices connaissent bien Robespierre. Peut-être juste un petit rappel, évidemment. Donc, c'est un avocat qui a été élu au tiers état, mais c'est un révolutionnaire qui rapidement va prendre parti pour la population, qui va défendre les intérêts de la population, qui va va incarner finalement tout ce qui est la tout ce qui est les droits de l'homme, qui va prendre des positions très avancées sur le plan politique mais aussi sur le plan économique. Donc il va devenir rapidement un porte-parole des mouvements populaires et qui comprend très bien comment fonctionnent les émotions en politique, puis il va le traduire en logos politique.
Si je sais qu'on les comparaisons en histoire, c'est faut prendre ça avec un grain de sel.
Bien sûr.
Est-ce qu'on peut le comparer à Karl Marx? Est-ce qu'on peut le comparer à Lénine?
On a souvent comparé Robespierre à Lénine parce que on a vu en Robespierre, puis là c'est évidemment toute la polémique, puis ça pourrait nous amener sur au moins 3-4 émissions. Les historiens marxistes de l'école de la Sorbonne ont vu en Robespierre une préfiguration des mouvements socialistes, et des gens comme Lénine et Trotsky, durant la révolution bolchevique, se sont beaucoup identifiés aux révolutionnaires jacobins. Donc Robespierre est une figure du mouvement populaire, puis finalement des demandes populaires, parce que Robespierre, ce qu'a compris derrière la Déclaration des droits de l'homme, qu'on voit comme une forme de libéralisme un peu à la Locke, ce qu'on voit chez Robespierre, c'est qu'il comprend très bien que derrière cette déclaration des droits de l'homme, il y a toute la question de l'existence puis de l'égalité. Puis lui, il va beaucoup insister là-dessus pour une existence très réelle, puis finalement demander des mesures très réelles sur le plan économique. Donc évidemment, les socialistes au 19e siècle, que ce soit Karl Marx, puis après ça finalement Lénine et Trotsky au 20e siècle, ont vu Robespierre comme une figure pré-socialiste. Mais d'un autre côté, l'école critique, donc l'autre bord du jardin du Luxembourg, à l'école des hautes études en sciences sociales, ont vu aussi en Robespierre un habile politicien qui non seulement était un porte-parole de ses demandes populaires, mais qui était capable d'instrumentaliser la peur, puis finalement de justifier des mesures de violence, puis d'exclusion de l'adversaire politique. Et finalement, on voit très bien qu'il y a un Robespierre, oui, défenseur du peuple, mais aussi un Robespierre politicien, habile, l'artisan de la terreur, du comité de salut public. Et donc, finalement, on a comme deux Robespierre, puis moi, je pense que les deux Robespierre sont quand même valides sur le plan historique. Puis de parler seulement de un ou de l'autre, je pense qu'on passe à côté de la complexité de ce personnage-là.
Mm-hmm. Oui, parce que là, c'est ça, on a la monarchie qui est renversée de façon relativement progressive quand même. Là, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais justement, il y a comme un mouvement progressif qui se fait où tranquillement, il s'instaure justement un climat de terreur, un climat de peur. Pouvez-vous nous parler de comment est-ce que ça se déroule, comment est-ce que ça dégénère?
Encore une fois, c'est une belle question, très complexe. Et quand j'ai donné mon cours sur la Révolution, ça m'a pris à peu près 8 semaines pour expliquer ça. Mais dès le début, en fait, ce qui arrive, c'est que le tiers est une demande très radicale de changement de la France. On veut doter la France d'une constitution. Il faut savoir qu'on était dans une monarchie absolutiste, d'un ancien régime qui est fondé sur un pouvoir politique absolutiste, puis finalement un pouvoir religieux, puis finalement on veut absolument tout changer. Donc ce qui arrive très rapidement, c'est qu'on se retrouve devant un vide politique où le roi est un peu tergiverse, il hésite beaucoup. Puis donc dans ce vide politique-là émerge la peur aussi, il y a une forme d'angoisse devant ce vide politique-là. Et le pauvre Louis XVI, sincèrement, dans son ADN de roi absolutiste, il pouvait pas accepter ces grandes transformations. La Déclaration des droits de l'homme comprend ça, honnêtement, ça balait de la main, finalement, 2 siècles d'absolutisme. Donc, il pouvait pas accepter.
Et de droit divin aussi.
Et de droit divin. Donc, honnêtement, de droit divin, c'est dur à accepter. Donc, on peut très bien comprendre que Louis XVI, progressivement, embarque dans le camp de la contre-révolution. Et c'est comme ça qu'on va s'enfoncer rapidement dans une guerre civile à l'intérieur, puis une guerre extérieure, parce que finalement, la France va être en guerre contre la Prusse et l'Autriche. Donc, on se retrouve dans une espèce de moment de crise généralisée où finalement, il y a un vide du pouvoir. Et ça, c'est favorable à la prolifération, finalement, de la peur, de l'angoisse, de tout ce qui est conspirationniste. Et donc, c'est dans ce contexte-là, finalement, que le conspirationnisme peut vraiment émerger et que des politiciens très habiles, comme Robespierre, vont être capables de canaliser ce désir de la population à des mesures énergiques et en même temps qu'ils veulent l'instrumentaliser. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'apparaît la terreur. La terreur, c'est une politique d'exception pour sauver la France avec des mesures violentes d'exception parce qu'on est en période de crise. Puis dans les périodes de crise, toute démocratie doit prendre des mesures d'exception. Donc Robespierre, il est pas seul. Honnêtement, il y a tout un groupe, les Montagnards derrière. D'ailleurs, on a tendance à penser que c'est juste Robespierre, mais ils sont quand même nombreux. Donc Robespierre comprend ce besoin-là, mais en même temps, il va utiliser cet instrument de terreur-là pour éliminer les Girondins, les dentonistes, les hébertistes. Et c'est là que finalement, on se retrouve finalement dans cette situation-là comme très complexe au plan politique.
Mmh. C'est ça. Il y a différentes factions, puis il y a aussi différents récits qui se contredisent, parce que malgré qu'on soit en train de construire un nouveau récit jacobin républicain, il y a encore le vieux discours qu'on a un peu parlé, la France fille aînée de l'Église, qui a quand même ce mandat-là divin de gouverner. Puis on va voir notamment en Vendée, justement, des rébellions fortes, réprimées. Donc est-ce qu'on peut dire que s'il y a une espèce de chaos? On en a parlé, un vide politique, mais il y a des guerres externes, la Prusse, tout ça, mais aussi à l'interne, ça va pas bien.
T'as tout à fait raison. Puis émergent durant la Révolution différents narratifs. Je vais utiliser ce terme qui est un peu à la mode aujourd'hui. Donc, il y a différents narratifs. Un narratif contre-révolutionnaire, un narratif qui est révolutionnaire. Donc, oui, la Vendée. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que ces narratifs-là vont être repris par les historiens. Puis, on a encore des fractures théoriques, historiographiques. Ce qui est intéressant aussi dans mon dernier chapitre sur Barouel, justement, tout oppose Barouel et Robespierre. Parce que
c'est qui Barouel?
Barouel, c'est un abbé religieux, antiphilosophique, contre-révolutionnaire, que du fuir immigrer en Angleterre. Il va écrire un livre qui va devenir célèbre à l'époque, qu'on a évidemment oublié, un livre sur le jacobinisme. Puis sa thèse, c'est de démontrer, selon lui, que derrière la Révolution, finalement, c'était un complot philosophique, maçonnique. Puis donc, finalement, il y a beaucoup de gens qui vont embarquer dans ce discours-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si tout oppose Robespierre puis Barouel, ils partagent la même conception du monde, c'est-à-dire que il y a les gentils et il y a finalement les méchants conspirateurs qui menacent. Donc, ça suppose un monde, une vision du monde qui est polarisée, qui est manichéen. Puis finalement, au-delà des idéologies qui sont complètement différentes, ce qu'on voit, c'est qu'un Barouel et un Robespierre ont le même schéma de pensée conspirationniste.
Puis justement, pour revenir sur Robespierre, tu t'es attardé à son discours, puis j'aimerais savoir, tu sais, pour ceux et celles qui sont plus ou moins familiers avec la Révolution française, c'était quoi les particularités de son discours, de ses discours, tu sais, d'amener le complot à travers son narratif, comme tu l'as mentionné, pour arriver à ses fins, en fait, ben à les fins des Jacobins et de ses proches, là, en fait, là.
Je dirais que il y a deux composantes essentielles dans son discours, pour faire simple quand même. Le premier élément, c'est Marcel Gauchet de l'École des hautes études en sciences sociales qui l'a très bien démontré, qui a écrit une biographie sur Robespierre qui montre que c'est vraiment le grand défenseur du droit naturel, des droits de l'homme, et qui va jusqu'à l'extrémité logique de ces droits-là. Quand on parle de liberté, ben il faut aller jusqu'au bout de la liberté. Puis quand on parle d'égalité, il faut aller jusqu'au bout de l'égalité. Puis Robespierre, c'est celui qui est allé le plus loin dans ce discours-là basé sur les droits naturels. Et c'est pour ça que ça, on le voit comme quelqu'un de très progressiste, du moins dans les premières années. Et c'est pas le seul, évidemment, à véhiculer puis à défendre les droits naturels, mais Robespierre, c'est celui qui incarne
le mouvement.
Qui incarne non seulement l'image, mais c'est celui qui est dans son discours, parce que finalement, les politiciens font toujours un compromis avec la réalité, puis c'est normal. La politique, c'est l'art du compromis. On a beau parler de liberté, d'égalité, de grandes valeurs, on est prêt avec une société, c'est encore comme ça aujourd'hui, on promet des choses, puis finalement, la réalité est un peu plus compliquée, puis on est toujours un petit peu déçu parce que les politiciens vont pas jusqu'au bout du projet politique. Mais Robespierre, c'est celui qui rappelle à tout le monde c'était quoi ces idéaux-là, puis qu'est-ce qu'on doit faire pour l'atteindre. Donc Robespierre, c'est celui qui est toujours là dans l'Assemblée nationale à répéter finalement les mesures les plus radicales qui sont en conformité avec les droits de la personne. Puis le livre de Marcel Gauchet montre vraiment, c'est celui qui est allé le plus loin durant la Révolution là-dessus. Donc ça, c'est la première composante. La deuxième composante, c'est que Robespierre est habité depuis le début. Honnêtement, c'est quand même un trait particulier chez lui sur justement l'idée de complot. Mais encore une fois, ce qu'on remarque, puis mon doctorat, ça servait à ça, c'est que Robespierre, il n'est pas seul. Finalement, que ce soit les Girondins qui étaient opposés justement aux montagnards menés par Robespierre, ils véhiculent tout finalement le conspirationnisme. C'est juste que, donc, ils utilisent tout ce discours-là conspirationniste pour expliquer, justifier les mesures, discréditer l'adversaire, parce qu'il y a des fonctions politiques évidemment derrière ça. Mais ce qui est particulier chez Robespierre, c'est celui qui est le plus habile. jusqu'au jour de juillet 94, où ça a un effet de boomerang. Il arrive à l'Assemblée, il sent que finalement, il est en train de perdre un peu la joute. Il annonce un grand complot, mais il fait l'erreur de pas nommer personne. Tout le monde se sent visé, puis finalement, on va le renverser de cette façon-là. Donc, le conspirationniste, c'est une arme dangereuse qu'il faut utiliser habilement. Robespierre, c'était un très grand stratège tacticien là-dessus, mais ça a fini par lui revenir dessus.
Moi, je me demande comment est-ce que, là, une fois qu'on coupe la tête du roi, puis que ça devient vraiment les républicains qui sont davantage en contrôle, comment est-ce que le pouvoir est divisé? Est-ce que, tu sais, on n'est pas dans une structure très pyramidale, là, très verticale? Comment est-ce que ça se passe, les joutes de pouvoir et d'influence?
Ben justement, ce qui est intéressant lors de la République, on n'est pas dans un système présidentiel, on est vraiment sur un régime que... Je pense pas qu'on va le nommer comme ça à cette époque-là, un régime parlementaire où la Convention nationale, qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale, est vraiment souveraine. Mais pour dominer dans cette Convention nationale, ça prend finalement des leaders d'opinion importants. Et c'est là que ça laisse la place à des gens comme Robespierre, qui réussit très bien. Là, je reviens sur l'importance des émotions en politique. Encore aujourd'hui, les meilleurs politiciens, c'est ceux qui sont capables de traduire ces émotions populaires et de les traduire dans un langage de politiciens. Donc, puisque c'est un régime vraiment de parlementaire dans la Convention, donc tu peux orienter le débat, tu peux finalement aussi exclure de cette façon-là. Donc, le pouvoir appartient dans ce cadre-là, même si c'est un cadre quand même qui est légal avec la République, le pouvoir appartient à celui qui est capable d'être le meilleur porte-parole. Puis le meilleur porte-parole, c'est celui qui est capable de traduire ces émotions-là, d'instrumentaliser ces émotions-là. Puis c'est là qu'on voit que finalement, c'est une convention qui laisse la place à ces grands orateurs-là. Quoique Robespierre, c'est peut-être pas un tribun comme Danton, mais c'est celui qui vend et qui l'utilise mieux, puis qu'on est capable de finalement de discréditer les adversaires. Puis il n'y a pas les partis politiques comme on a aujourd'hui, il y a des tendances. Donc, évidemment, Robespierre représente la tendance qu'un montagnard jacobine. Le jacobin, c'est un club, puis les montagnards, c'est ceux qui occupent le haut de la convention, qui sont opposés aux Girondins, mais il n'y a pas de ligne de parti. En fait, c'est vraiment c'est une mouvance. Donc, il y a une mouvance autour de Robespierre, il y a une mouvance autour de Brissot, Vergniaud, qui incarne les Girondins.
Puis, dans le fond, ça va être fluctuant. Justement, au
ça va être évidemment fluctuant. Puis ça veut dire que ce pouvoir-là, non seulement il est fluctuant, mais il est toujours à renouveler. Puis finalement, il est jamais acquis. Puis comment on fait pour le renouveler? C'est par une surenchère radicale. Puis Robespierre pratique une surenchère radicale. C'est lui qui va appeler à la terreur, à des mesures d'exception. Donc c'est une espèce de course en avant dans la radicalité aussi, mais c'est une lame à double tranchant.
Mm-hmm. Puis pour venir sur... Encore une fois, le discours de Robespierre, j'ai pris un passage de ton livre, puis là, tu me diras si on peut aller là-dessus ou quoi que ce soit, mais j'ai vraiment aimé cette citation-là. Tu disais que le discours robespierriste était, ou je peux avoir une philosophie de l'histoire. Qu'est-ce que tu voulais dire, puis comment on pourrait ouvrir sur ces propos-là par rapport à Robespierre qui... On le voit, tu as été une figure emblématique de la Révolution française, non seulement par ses mécanismes, ses talents d'orateur, tout simplement. Je trouvais ça intéressant comme citation.
Ce qu'on découvre derrière Robespierre, puis ça prend du temps, honnêtement, il n'y a pas cette philosophie de l'histoire en partant, même s'il y a un discours conspirationniste pour dénoncer finalement les manœuvres de la cour autour de Marie-Antoinette, du comte d'Artois, etc. Même si le discours conspirationniste chez Robespierre est déjà là d'emblée, il reste qu'au fur et à mesure, il réinterprète la Révolution. Donc, quand on suit ces discours, c'est en 91, en 92, 93, il finit par réinterpréter toute la Révolution comme si c'était une lutte, non seulement contre la Révolution, mais contre une contre-révolution conspiratrice. Et donc, finalement, il va tout réinterpréter le combat comme s'il y avait finalement, d'un côté, les révolutionnaires, maintenant les républicains, parce qu'on est rendu dans une république en 92. C'est comme s'il y avait toujours eu cette espèce de combat-là contre un complot aristocratique, qui là s'est élargi parce que là, finalement, la France est en guerre contre finalement à peu près toute l'Europe. Donc là, c'est un complot étranger, aristocratique. Puis finalement, il réinterprète toute l'histoire de la France comme si c'était une espèce de lutte entre deux camps complètement opposés. Il y a un « nous » communautaire autour de la République et de certaines valeurs qui s'opposent finalement à un monde de conspiration qui veulent rétablir l'ancien régime puis le despotisme. Donc là, il arrive à la toute fin, vers 93 et 94, à réinterpréter toute la Révolution. Et je reviens finalement aussi à notre personnage Orwell, le contre-révolutionnaire, lui également, il a cette même vision-là. C'est comme s'il y avait eu, depuis le début, un complot révolutionnaire caché qui datait de Rousseau, de Voltaire, puis des philosophes. Et tout ça était déjà en préparation, puis la révolution, c'est juste l'aboutissement de ce complot-là. Donc, Barouel voit aussi l'histoire de France comme une espèce de grande conspiration. Donc, il réinterprète finalement l'histoire de France avec un moteur qui est le complot. Donc, Robespierre et Barouel ont à peu près la même vision que derrière l'histoire de la France, il y a un moteur conspirationniste.
Donc, le personnage de Robespierre, en fait, c'est ça, comme tu l'as mentionné, il tente de réécrire un peu l'histoire puis la situation de la Révolution à travers ses paroles avec l'outil du conspirationnisme?
En fait, plus largement, quand il y a une révolution politique, que ce soit la Révolution américaine, la Révolution bolchevique, la Révolution tranquille, ça nécessite un nouveau discours de réinterpréter l'histoire. Je vais reprendre le terme que j'ai utilisé tout à l'heure qui est vraiment à la mode. Ça impose un nouveau narratif. Donc, les révolutionnaires, ils doivent réécrire l'histoire. Ils doivent réécrire l'histoire parce qu'ils sont en train de la faire. Et donc, finalement, le conspirationniste, il y a derrière le conspirationniste, il y a toujours un récit. Il y a toujours un récit manichéen, mais il y a toujours un récit des origines. Mmh. Et donc, finalement, il y a quelque chose de puissant derrière le conspirationniste parce qu'il y a un récit. Et donc, Robespierre utilise ce vocabulaire-là pour justement faire une lecture de l'histoire. Donc, on a ça derrière toutes les révolutions, même derrière la révolution américaine, la révolution bolchevique. Ça nécessite de réécrire l'histoire.
Mais je pense aussi qu'on peut pas être détaché d'un récit quand on pense à l'histoire, parce qu'on a besoin de voir une certaine cohérence dans les événements. Donc, il faut mettre ça à travers un récit, tu sais. Puis après, c'est quoi le récit? Ça peut changer bien des choses, tu sais. Comme, je veux dire, la notion d'ancien régime, ça n'existait pas, ça, avant.
Mais non, le terme d'ancien régime apparaît justement dans le contexte de la prise de la Bastille, où on est conscient qu'on est en train de construire un nouveau monde. Donc, pour construire un nouveau monde, il faut qu'il y en ait un ancien. Donc, on a inventé un terme qui va devenir puissant, l'ancien régime. Derrière l'ancien régime, l'idée absolutiste, c'est l'idée finalement d'un pouvoir, d'un roi, d'une église, etc. Donc, derrière ce terme-là, qu'on dit l'ancien régime, c'est très puissant. Mais c'est la même chose avec la Révolution tranquille. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je suis pas un spécialiste évidemment de l'histoire du Québec, mais la Révolution tranquille puis les artisans ont réécrit une histoire du Québec comme s'il y avait la grande noirceur avec Maurice Duplessis. Oui. Puis après ça, il y a eu tout un courant, je sais pas comment on l'appelle, révisionniste ou en tout cas, il y a eu tout un courant des années 90-2000 qu'on essaie de montrer que finalement le libéralisme existait déjà sous Duplessis malgré des mesures qui avaient l'air très conservatrices. Le Québec libéral existait déjà quand même avant, mais à chaque fois qu'une révolution, il faut réécrire puis il faut départager un monde. Il y avait le monde d'avant qui était pas bon, puis le nouveau monde avec des nouvelles valeurs, puis on a tendance à schématiser. Mais le conspirationnisme sert à ça. Ça permet de faire un récit puis de tracer puis de départager un monde. C'est très, très polarisant, là.
Puis, où là? C'est vrai, encore là, c'est une question large, mais où c'est qu'on peut tracer la frontière entre ce qui est, tu sais, une construction narrative de l'histoire vraisemblable? Puis, quand on est rendu dans le conspirationnisme, est où la ligne entre les deux, tu sais? Parce qu'on en a besoin de se construire un récit pour donner du sens à d'où on vient, tu sais? On a besoin de ces récits-là. Donc, où c'est qu'on tombe dans le conspirationnisme?
Là, tu poses une question contemporaine, évidemment, très importante. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des historiens, parce qu'on est là pour travailler. On doit, peu importe le récit. En fait, ce qui est difficile, c'est que peu importe le récit, l'historien est là pour essayer de valider par les sources, pour voir ce qui s'est passé. Mais en même temps, puis ça c'est mon approche parce que je suis un historien de la culture politique, des représentations qui accordent l'importance à l'émotion, l'histoire se construit par les acteurs puis ce qu'ils pensent, même si la réalité c'est pas ça. Par exemple, je reviens sur la Révolution tranquille, on s'écarte un peu de mon sujet, mais si les acteurs puis les actrices de l'histoire considèrent que finalement ils ont dû abandonner un vieux Québec d'ancien régime avec Maurice Duplessis, une période noire, obscure, dominée par l'Église, mais si pour eux c'était ça l'histoire, mais c'est ça qui est important. Puis on a d'autres historiens qui vont démontrer, mais non, on était déjà dans une société quand même libérale, les 30 glorieuses, on était déjà là-dedans. Mais l'historien est là pour rappeler que finalement c'était ça. Mais ce qui est important, puis pour moi, c'est ma position comme historien, c'est qu'est-ce que les gens pensaient. Puis si c'est ça qu'ils pensaient, mais c'était pour eux, c'est ça qui ont. C'est comme ça qu'on comprend leurs actions. Donc c'est là que ça devient difficile, ouais. Parce qu'il faut accorder une importance à comment les gens construisent leur récit.
Comme une espèce d'air du temps, si on veut.
Un zeitgeist, ouais. Évidemment.
Ouais. il y a un thème que je voulais mettre de l'avant, puis ça peut sembler assez simpliste comme élément, mais c'est quand même intéressant d'y aller plus en profondeur de manière académique. Le thème de la peur dans le complot, il est omniprésent. Ça, c'est clair. Puis, comment elle se présente tout simplement? Parce que, tu sais, les complots passent avec une peur de un monde nouveau, que, tu sais, Machiavel est quoi, je peux le dire dans le même, là, mais une chose est certaine, la peur est là. Comment elle se présente?
Tout à fait. La peur était là durant la pandémie. La peur était là le 11 septembre. La peur était là aussi après la crise économique de 29. La peur est là durant la Révolution. Puis je rappelle quand même ma remarque méthodologique que la peur, c'est une émotion politique, puis ce n'est pas le degré zéro de la pensée, c'est une modalité de jugement, et c'est par la peur que finalement on est capable de donner du sens, de commencer, c'est un embryon déjà de théorie. Évidemment, c'est plutôt embryonnaire, qui fonctionne par les rumeurs, mais en même temps, ce qu'on voit, c'est que la peur permet de désigner un ennemi, ça prend un certain visage.
Comme quoi, c'est un élément fondamental dans le conspirationnisme. Mais il y a aussi la notion du secret, la notion qu'il se passe des choses derrière les portes closes, puis c'est contre vous que ça se passe. Comment ça intervient, ça, autant dans la Révolution française que ça se poursuit aujourd'hui encore, cette méthode-là?
Le tu touches sur un point super important, en fait, de notre culture démocratique. Notre culture démocratique suppose un idéal de transparence, un monde de réciprocité. La démocratie, ça suppose finalement qu'une espèce un monde commun entre ceux qui détiennent le pouvoir et la population. Donc, il y a vraiment toute une espèce de désir, justement, de fonder un monde transparent, un monde de réciprocité, un monde qui est commun. Et c'est justement, et c'est dans ce contexte-là qu'émerge aussi la pratique dénonciatrice. Parce que finalement, on peut revenir aussi sur toute une discussion sur le conspirationnisme. Il y a quelque chose de sain, parce qu'on a tendance à le dénoncer aujourd'hui, puis évidemment, il y a plein d'éléments qui sont farfelus dans les théories de complot, mais dans le conspirationnisme, il faut quand même le dire, c'est une composante essentielle de nos démocraties. Parce que, puis on va le voir d'emblée durant la Révolution française, où il y a plusieurs journalistes qui vont se présenter comme des sentinelles pour assurer une vigilance, une défiance et une méfiance nécessaire par rapport au pouvoir, parce qu'on va se le dire, depuis très longtemps, on sait très bien que le pouvoir politique peut manipuler le mensonge, la trahison et la conspiration. Puis dans une culture démocratique, il faut s'assurer qu'il y a un monde commun entre nos politiciens, nos représentants, ce qui sont supposés être des représentants du peuple, et finalement la population. D'où le fait qu'émerge un contre-pouvoir pour justement dénoncer les malversations, les trahisons, les mensonges, les manipulations. Donc le conspirationnisme, à la base, est consubstantiel finalement à notre démocratie. Et donc c'est sain que des citoyens puissent critiquer puis remettre en doute justement les politiciens. Mais en même temps, et c'est là que c'est dangereux, puis c'est un équilibre qui est difficile dans une société, donc la méfiance, la critique, la dénonciation, c'est quelque chose d'essentiel, parce que justement, on n'accepte pas que nos politiciens peuvent prendre des décisions derrière les portes closes. Donc, je reviens à la question sur le secret. On n'accepte pas ça parce que normalement, il est supposé d'avoir une communication avec le pouvoir qui ne doit pas prendre des décisions de façon cachée. Mais quand la dénonciation se généralise, puis la méfiance, là, il y a une forme d'érosion de nos institutions politiques, parce que la communauté politique suppose finalement un minimum de confiance vis-à-vis de nos politiciens. Parce que si c'est une méfiance généralisée, ben là, finalement, il y a une prolifération de l'angoisse puis du conspirationnisme. Donc, un peu de conspirationnisme, c'est bon. Trop de conspirationnisme, c'est pas bon. Donc là, évidemment, il y a un point d'équilibre. Puis ce point d'équilibre-là, en général, dans des contextes de crise, dans des contextes d'angoisse comme la pandémie, le 11 septembre, la Révolution française, durant le mécartisme. Donc, habituellement, ce point d'équilibre-là, il est rompu. Et c'est là que ça pose problème, finalement, pour nos institutions politiques.
Je pense qu'on serait au bon moment pour conclure l'épisode sur une note où est-ce qu'on fait des parallèles avec notre époque contemporaine. Dans ton livre, tu conclues en faisant des parallèles vraiment intéressants par rapport à la prise de la Bastille, la Révolution, le 11 septembre, mais aussi la pandémie. Tu sais, on en parle depuis le début. C'est les trois exemples les trois contextes qu'on met de l'avant aujourd'hui. Puis tu expliques aussi que l'historien, il est peu interpellé. Que veux-tu dire? Puis aussi, comment l'histoire ou l'historien nous aide à mieux comprendre notre présent et tous les enjeux qui s'attachent.
C'est bien, ça permet de boucler la boucle parce qu'on a commencé avec l'utilité ou non de l'historien. Donc, en fait, ce qui m'agace parfois dans les recherches aujourd'hui, on a tendance finalement, puis c'est correct, là, on met le doigt sur Internet, on met le doigt sur les réseaux sociaux comme des lieux évidemment de prolifération du conspirationnisme. Puis oui, c'est vrai, c'est des caisses de résonance pour le discours sur le complot, c'est évident. Mais quand on gratte un peu, puis quand on remonte avant le 11 septembre 2011, on se rend compte que le conspirationniste était là. Donc là, finalement, l'idée que le monde a changé depuis Internet, parce que finalement, on a de la difficulté à avoir un horizon d'au-delà de 20 ans, mais quand on se rend compte que finalement, qu'avant le 11 septembre 2001, le conspirationniste était là, puis il y avait même dans la culture populaire de cette époque-là, des années 90, comme X-Files, que peut-être vous n'avez pas connu, mais X-Files, c'est une quête de vérité, de société secrète. Donc, c'était déjà très commun dans les années 90, un monde où il n'y avait pas Internet. Puis quand on gratte un peu, puis on remonte dans les années 50 aux États-Unis, on se rend compte que durant la guerre froide, le McCarthyisme, on se rend compte que finalement, tout le monde avait peur du complot communiste. On n'avait pas besoin d'Internet, puis des réseaux sociaux. Puis probablement que la peur du complot communiste était bien plus puissant que la peur de la pandémie qui vient d'un laboratoire secret à Wuhan, de la Chine. Donc, puis on remonte finalement... La crise économique, puis on voit la prolifération du conspirationnisme, puis ainsi de suite. Donc là, finalement, ça l'historien est là pour nous rappeler que finalement, c'est un vieux phénomène qui, oui, prend un visage nouveau, différent, puis il faut essayer de comprendre la mutation de quelque chose. Mais pour comprendre sa mutation, il faut comprendre que ça a muté. Puis finalement, quand on regarde les recherches aujourd'hui, on a tendance à s'imaginer que c'est quelque chose de nouveau, puis on trouve un bouc émissaire rapide qui est Internet. Mais ouais, c'est vrai que Internet, c'est sûr qu'avec les plateformes gratuites, il y a une espèce de phénomène d'auto-validation entre plateformes conspirationnistes.
Qui crée des chambres d'écho aussi, où est-ce qu'on pense que c'est ça la réalité?
Exactement. Donc oui, il faut l'analyser, puis oui, il y a quand même quelque chose de nouveau, mais en même temps, il faut voir... qu'est-ce qui reste, puis pourquoi c'est encore là. Puis c'est là que l'historien peut nous rappeler finalement des caractéristiques puis des fonctions importantes, puis ça nous aide à comprendre un phénomène plus contemporain, là.
C'est ça, c'est les périodes de crise, comme on disait, qui amènent beaucoup le conspirationnisme. Donc, est-ce que... Ben c'est une crise, je pense, qui est très profonde, qu'on vit en ce moment, là, l'atomisation de la société aussi. Ça, c'est pas juste la technologie qui amène ça, là. Mais est-ce que on va être capable de reconstruire un récit? Est-ce qu'on est à l'aube d'une nouvelle période où on se reconstruit un récit? Là, je sais que c'est large, encore une fois, mais je trouve, vous demandez ça à un historien, ça peut être pas pire.
C'est une question difficile. Il me semble que les politologues que vous êtes peut-être mieux placés que moi. Moi, je suis là pour donner des leçons d'histoire, peut-être des leçons de présent, mais honnêtement, tu poses une bonne question. Puis, qu'on voit la polarisation aux États-Unis, mais aussi une polarisation en France, un peu moins peut-être au Québec, mais quand on voit la montée du populisme, ça nous encourage pas finalement à retrouver un récit commun, parce que le défi, puis le conspirationniste, c'est le défi, c'est d'être capable d'avoir une communauté qui est à la fois une et plurielle. Une, il y a quelque chose de dangereux dans une communauté homogène. T'sais, on veut une société qui est diversifiée, mais en même temps, s'il y a une polarisation comme on voit aux États-Unis, on voit que finalement, on n'est plus capable aussi comme société d'avancer puis d'avoir un récit commun. Et donc, je dirais pas qu'il y en a qui parlent d'une pseudo-guerre civile aux États-Unis, en tout cas.
Mais la diversité amène une altérité.
Donc, il faut être capable de vivre avec cette altérité-là. Puis c'est les défis, je pense, que du 21e siècle, c'est à la fois de trouver une base commune, mais d'accepter finalement aussi une altérité. Puis ça, honnêtement, on est là-dedans. Puis pour l'instant, il y a différents scénarios. Puis quand on regarde nos voisins du Sud, il n'y a pas toujours grand-chose d'encourageant là-dedans aussi. Là.
Mais c'est comme si beaucoup, beaucoup de choses qui étaient des repères communs ont été dissous avec la modernité. Tu sais, on en parlait la semaine dernière d'agriculture. Tu sais, le fait que avant la société canadienne-française traditionnelle avait les piliers de l'Église catholique, de la terre puis de la famille. Après ça, avec la Révolution tranquille, on est allé plus dans le maître chez nous, tu sais, le nationalisme, voire l'indépendantisme. Après, on dirait qu'on vit une crise. Si on parlait d'air du temps, on dirait que depuis 25 ans, en tout cas au Québec, on, on a comme une espèce de vide au niveau de où est-ce qu'on s'en va, tu sais. Je pense que ça contribue aussi au mal-être qui cause cette espèce de porter du fait d'être porté vers le conspirationnisme.
Et donc, c'est là, puis j'invite tout le monde, quand on réfléchit au conspirationnisme, de le voir comme un symptôme d'un malaise social. Donc, je dis pas qu'il faut pas, il faut vérifier la crédibilité de ces théories puis des différentes rumeurs, puis ça, finalement, les journalistes le font très bien, les décrypteurs. Mais en même temps qu'on est en face du conspirationnisme, c'est un symptôme d'un malaise social. De quoi ça nous parle? C'est de perte de repère. Et je reviens aux archétypes. Parce que finalement, on revient toujours aux archétypes. C'est un désir caché d'unité. Parce que finalement, puisqu'on est, on sent qu'il y a une trame de fond. Honnêtement, qu'il y a des changements profonds dans la société, d'où la montée du populisme qui est le reflet d'un malaise social. Et donc, ce que ça cache, puisqu'une perte de repère, c'est un désir d'unité. Donc, le conspirationnisme, il faut le voir comme un symptôme de malaise. Puis ça permet de nommer finalement cette détresse-là à quelque part. Donc, j'invite quand même tout le monde à essayer de réfléchir que, au lieu de s'attaquer, c'est correct de déconstruire les théories du complot, puis QAnon, tout ça, évidemment, c'est un peu farfelu, mais en même temps, il faut travailler sur pourquoi il y a ce malaise social-là, puis finalement, aller plus profondément. Mm-hmm. Parce qu'il y a une perte de repères. Donc, il faut retravailler sur de reconstruire une communauté qui a un récit commun, mais sans oublier qu'il faut qu'il soit aussi diversifié. Là. Bon, là, c'est une ligne un peu plus politique de ma part, mais ce que je vois comme spécialiste, c'est un désir d'unité avec une perte de repère, et c'est ça qui favorise la montée du conspirationnisme.
Est-ce que cette perte de repère-là, on pourrait la comparer un peu justement à une peur de l'inconnu?
Ça, c'est sûr. Donc, la perte de repère dans la modernité... Ce qui est à la fois magique dans la modernité, c'est qu'on peut constituer une nouvelle communauté qui s'invente et tout, mais en même temps, les repères sont beaucoup plus, les certitudes sont beaucoup moins fixes que quand c'était une monarchie absolutiste où il y avait comme deux piliers. Il y avait le roi, puis finalement, il y avait l'Église. Donc, il y avait des repères qui étaient assez simples. Et là, finalement, on est dans une société démocratique en mouvance, puis oui, cette perte de repères-là, c'est ça qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à retrouver une base commune.
Mm-hmm. Ouais. On est en temps politique, là. Tu sais, je pense qu'aussi, nos politiciens n'aident pas de par la manière qu'ils gèrent les crises qu'on vit. Tu sais, la crise climatique amène son lot d'incertitudes, voire ouais, d'anxiété. Là, il y a une crise de la santé mentale un peu latente. On en voit les effets trop régulièrement dans les médias. Puis, on dirait qu'au niveau de la classe politique, il y a comme un vide quant au fait de donner du sens aux événements tragiques qu'on vit, tu sais.
Je dirais que le principal responsable, mais il faut se dire qu'on a nos politiciens qu'on mérite, là, honnêtement. Donc, j'allais pointer les politiciens, mais en même temps, c'est la population qui va élire ces politiciens. Mais oui, ils ont une responsabilité parce que, encore une fois, je reviens au conspirationnisme comme un symptôme de quelque chose. C'est un symptôme, finalement, d'une non-confiance vis-à-vis du gouvernement. Mais parce que le gouvernement ne livre pas à marchandises sur des enjeux importants comme l'environnement. Si on avait confiance en eux, on n'aurait pas besoin de construire des discours alternatifs. Les discours alternatifs apparaissent quand on n'est pas satisfait de l'offre qu'on a. Puis finalement, donc ce qu'on voit, c'est qu'on n'est pas satisfait de l'offre et ça favorise justement l'apparition de discours alternatifs. Donc on peut évidemment critiquer les discours alternatifs, mais il faut peut-être voir d'où ça vient. Et ça vient finalement, les politiciens ont une responsabilité là-dedans parce qu'ils livrent pas la marchandise.
Je trouve ça intéressant l'idée qu'il y a un vide de l'offre, puis c'est comme les discours qui donnent du sens viennent remplir ce vide-là au fond, tu sais. C'est vrai que tu regardes comment est construite la communication politique aujourd'hui, puis c'est tellement professionnalisé, c'est tellement stagé, tu sais. On veut s'assurer que tout soit propre, que tout soit parfait, qu'il y ait pas de, qu'on choque pas dans la manière qu'on communique. Il y a tu sais, on en parle de la rectitude politique pour le meilleur et pour le pire. Je pense que justement, ça a peut-être cet effet-là, tu sais, que tout devient tellement balisé que ça devient beige. Puis ça remplit pas des aspirations profondes qu'on a.
Exactement. Donc, je pense que tu mets le doigt vraiment sur le malaise social où les politiciens sont pas capables de répondre à une préoccupation majeure. On le dit, on le sait, notre maison, la planète Terre est en feu. Il y a l'urgence climatique. Que font les politiciens? Ils font strictement rien. Donc, faut pas, honnêtement, comme historien, avec finalement, avec deux, trois siècles de bagages derrière nous, ça sera pas surprenant s'il y a une radicalisation là, qui suit. Ouais. Une radicalisation du mouvement, parce que finalement, ça répond pas aux besoins. Ils ont besoin d'alternatives. Mmh. Mais quand on répond pas aux besoins, c'est sûr que ça va mal finir.
Tu sais, avant, tu avais des discours radicaux qui étaient dans l'espace public. Tu avais des Michel Chartrand, tu avais des Pierre Falardeau qui étaient dans les médias, puis qui mâchaient pas leurs mots, là, qui disait les choses telles qu'il les pensait. S'il pensait qu'un tel politicien, c'est une pourriture, il le disait, tu sais, je veux dire, s'il disait, tu sais, est-ce qu'on est encore, puis je pense que juste ça, justement, ça pouvait peut-être calmer ce ressentiment-là que les gens avaient, tu sais. Si on est plus capable de parler de façon si crue en public, ben c'est ça, peut-être que c'est là que ça peut venir quelque part.
On revient finalement à la culture de la transparence. Il faut que nos politiciens, et c'est pour ça que finalement il y a toujours une critique des élites. Quand on entend la critique des élites, c'est parce que finalement on a l'impression qu'ils nous représentent pas. Et donc c'est là qu'on revient à ce qui est au cœur de la démocratie, ce besoin-là d'une réciprocité, d'un monde de transparence. Donc on a le sentiment que finalement ces politiciens-là sont là pour nous. Mais que s'ils sont pas là pour nous, qu'on soit capable de les critiquer. Donc là on arrive dans une espèce de consensus mou où finalement on n'est pas capable de critiquer parce que finalement il y a un genre de politically correct, puis en même temps on accepte que les politiciens ne répondent pas à nos besoins. C'est sûr que ça va mal finir. C'est sûr que ça va se radicaliser parce qu'on est en face finalement de problèmes majeurs.
Dernière peut-être petite question dans la lumière de ce que je viens d'entendre, tu sais, à travers la conclusion, est-ce que on devrait, la manière qu'on voit le conspirationnisme puis les théories du complot, on les voit à l'heure actuelle en stigmatisant, en pointant du doigt, en disant c'est quoi ça, mais à la place de faire ça, on devrait voir ça comme justement un signal de faut changer notre façon de voir la société, de la construire puis de livrer la marchandise entre guillemets. Donc est-ce qu'on perçoit le conspirationnisme d'une façon qui, d'une mauvaise façon?
Globalement, mais oui puis non. Je comprends que quand on est en face de théories complètement farfelues, notre premier réflexe, c'est évidemment de critiquer. On a tendance à caricaturer. Puis le conspirationnisme, c'est une façon facile de discréditer finalement l'autre. Mais en même temps, puis c'est quand même important de faire ce travail journalistique pour montrer que finalement, il y a vraiment des rumeurs qui ont niqué une tête. Mais en même temps, de faire ça, je trouve ça réducteur. Et on passe à côté du problème majeur parce que je reviens au fait que le conspirationnisme, c'est le symptôme d'un malaise, un malaise civilisationnel, un malaise social et politique. Et on doit, ça nous invite, quand on est en face du conspirationnisme, d'un conspirationniste ou du conspirationniste, ça nous invite finalement à travailler sur le fond des choses.
Je crois qu'on vient de conclure l'épisode. Charles Sardis, Renaud, Philippe et Megan, c'est maintenant l'heure du générique. Merci Philippe d'être venu en studio pour venir jaser tout ça. Très intéressant, très formateur aussi. Qui sortait du cadre, puis nous, je pense qu'on aime ça, là.
Ben, merci de l'invitation. Merci de l'intérêt que vous avez porté à mon livre. Ça me fait plaisir de revenir pour qu'on continue à discuter sur qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir au 21e siècle.
Charles Sartitris, je vous rappelle l'horaire le mercredi. Nos balados, est-ce qu'on se concentre sur un sujet qu'on analyse en profondeur? Et le lundi, on continue nos émissions d'actualité comme à l'habitude. Donc, on se revoit lundi. J'espère que l'émission vous a plu et au plaisir de vous revoir très bientôt. Bonne journée tout le monde.